Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. L'art contemporain au menu de cette édition. La ville de New York reste incontestablement le centre du monde artistique, mais l'Europe n'est pas en reste. L'Allemagne tout d'abord avec un marché de l'art animé, l'Italie également ou encore le Royaume-Uni devant la France qui ne parvient pas à retrouver son prestige du milieu du XXe siècle. La scène artistique mondiale connaît depuis plusieurs années une certaine atomisation avec la montée en puissance de nouveaux acteurs tels que la Chine, la Russie, l'Inde ou les États du Golfe. Ces pays devenus de nouveaux Eldorados économiques et financiers engendrent écoles d'art et nouveaux artistes. Le Louvre à Abu Dhabi, Art Basel à Miami, les tulipes de l'américain Jeff Koons à Paris sont autant de manifestations de l'art contemporain comme outil d'influence, marqueur de puissance. L'art, plus que jamais, mesure le degré d'émancipation d'un pays, son pouvoir d'attraction et sa place dans le monde. À l'heure de la mondialisation marquée par l'essor des grandes foires internationales, regard sur les transformations du marché de l'art contemporain avec nos invités. En studio, Nathalie Obadia, galeriste spécialisée dans l'art contemporain avec 3 espaces à Paris et 1 à Bruxelles. Nathalie Obadia expose des artistes émergents et reconnus de la scène artistique contemporaine internationale et participe à plus d'une dizaine de foires internationales, enseignante à Sciences Po et auteure de Géopolitique de l'art contemporain aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour.
Bonjour.
Au téléphone, Alain Comin, professeur de sociologie de l'art à l'Université Paris 8, contributeur de la presse artistique, que son dernier ouvrage, Le monde des galeries, art contemporain, structure du marché et internationalisation, aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Art Basel, événement majeur du marché de l'art contemporain, foire la plus importante du monde consacrée à l'art du XXe et du XXIe siècle, lieu de rassemblement de l'élite des marchands et le Gotha des collectionneurs. Art Basel donc a pu tenir son édition 2022. Nathalie Obadia, vous y étiez. Quelle a été la spécificité de cet événement post-Covid? Est-ce qu'on peut parler de retour à la normale?
Alors, on peut effectivement dire que pour la ville de Basel, le fait de Bâle, d'accueillir cette édition était extrêmement important, d'autant que effectivement la dernière édition qui avait lieu en septembre était, on va dire, mi-figue, mi-raisin, puisque ce n'était pas les dates habituelles. Et puis, c'était aussi très important, puisque le groupe Art Basel va maintenant s'installer à Paris cet automne en prenant le créneau de la FIAC. Donc il était aussi, je crois, très important pour la première foire Art Basel qui a été créée en 1970 de montrer qu'elle pouvait en tout cas garder sa puissance et son importance alors même que 3 mois après, maintenant, il y aura aussi une foire avec le label Art Basel à Paris.
Alors, effectivement, on va en reparler de cette histoire de Art Basel à Paris, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Alain Comin, je me tourne vers vous. Vous êtes donc avec nous par téléphone. Ce que l'on voit, et après ça, je ne sais plus si j'ai les chiffres en tête, mais disons qu'il y avait une 60aine de foires en l'an 2000, et qu'il y en a maintenant aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, à chacun 400, voire davantage. Qu'est-ce qu'il faut dire de cette multiplication des foires et quel est le rôle finalement dans le fonctionnement du marché de l'art aujourd'hui, Alain Comin?
Non, le nombre de foires absolument est considérable. Elles ont beaucoup cru, elles sont multipliées, en particulier durant les années 90 et durant les années 2000. Ce qui est quand même plus important à retenir, c'est que parmi la multitude de foires qui existent aujourd'hui, on peut considérer qu'il y en a véritablement une 50aine qui sont de vraies foires internationales. Toutes revendiquent ce label car c'est une façon de se positionner comme des vraies foires d'art contemporain, mais pour autant, toutes ne sont pas véritablement importantes. Une galerie comme la galerie de Nathalie Obadia n'envisagerait pas du tout de participer à certaines de ces foires, même si elles prétendent exister véritablement dans le calendrier, dans l'agenda international. Donc on peut dire que les foires sont extrêmement nombreuses, les foires qui comptent véritablement en termes justement un peu géopolitiques, en termes d'influence internationale, sont en réalité beaucoup moins nombreuses, mais elles sont quand même extrêmement nombreuses, puisque quand même, il est difficile aujourd'hui de les faire toutes. Aucune galerie ne pourrait faire, par exemple, une 50aine de foires par an.
Donc des foires à plusieurs vitesses, Nathalie Obadia.
Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des grandes foires globales, dont justement les foires de Basel, puisque c'est Art Basel, Basel Miami, Hong Kong, même si c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, et puis maintenant Paris. Il y a Frieze, qui est une foire londonienne, qui est allée aussi à New York, à Los Angeles, et maintenant qui s'installe à Séoul. Donc ça, ce sont des grandes foires globales. À côté de cela, il y a ce que j'appellerais, moi, des foires de niche, qui sont des foires peut-être plus locales ou qui ont des spécificités sur des marchés très précis, comme par exemple Art Dubai, qui incite plutôt les galeries et les artistes de cette grande région du Moyen-Orient, du MENA, comme on pourrait dire, de venir, à venir exposer. Comme aussi un 54, qui a été créé par Touria El-Glaoui pour justement mettre en avant des artistes africains ou descendants justement d'Afrique, comme les artistes afro-américains. Et donc cette foire a lieu à Marrakech, à New York, à Londres. Et puis il y a eu aussi des sessions à Paris pendant la Covid. Et pour une galerie comme la mienne, il est très important de trouver un équilibre justement entre ces grandes foires globales qui font partie justement du travail de la galerie, de pouvoir accéder, de pouvoir promouvoir les artistes de la galerie à travers ces grandes foires globales. Mais d'un autre côté, nous avons besoin aussi de ces foires de niche, de ces foires plus spécifiques pour pouvoir promouvoir des artistes sur des scènes vraiment où on sait qu'on aura accès à un certain type de conservateurs, de commissaires d'exposition, puisque dans des foires globales, c'est très difficile de montrer des plus jeunes artistes.
En tout cas, cette multiplication des foires, elle procède de la mondialisation actuelle, c'est-à-dire qu'il faut, et c'est un point de passage, Alain Commun, finalement un point de passage obligé pour les galeries aujourd'hui que de participer à ces foires pour se faire connaître internationalement et mondialement.
Alors, les foires ont plusieurs fonctions. À la fois, elles vont permettre de renouveler son stock de collectionneurs, voilà, de toucher de nouveaux clients que l'on ne pourrait pas forcément faire venir dans les murs de la galerie dès le premier contact. Et puis également, elles ont une autre fonction de ces foires, parce qu'elles permettent également, en quelque sorte, de décerner un label. On voit bien qu'il existe tout un cursus honorum qui fait que les galeries vont commencer par des foires plus petites, des foires davantage de niche, comme le disait Nathalie Obadia, des foires qui aussi souvent sont situées plus près du pays dans lequel elles sont installées, et puis peu à peu, elles vont franchir différents paliers et qui vont leur permettre, in fine, lorsqu'elles sont parmi les plus influentes internationalement, d'accéder aux foires donc de MCH Group, le groupe qui possède Art Basel, et la dernière étape, la dernière marche de cette progression étant bien entendu le fait d'être accepté à Art Basel Basel.
Alors, je reviens sur l'édition 2022 de Art Basel avec vous, Nathalie Obadia, puisque vous étiez présente. Finalement, que nous dit cette édition 2022 de la santé du marché de l'art aujourd'hui? Et ensuite, quel type d'art y avez-vous vu? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles et qui vous ont particulièrement marqué?
Alors, je dirais que cette édition de 2022 est très intéressante, puisqu'elle montre bien une globalisation du marché et qui est obligé d'être accepté par les membres du comité, par la direction générale, on va dire, de Art Basel, qui pendant très longtemps a plutôt privilégié un art plus conceptuel, qui était beaucoup plus anglo-saxon, plus minimal, et qu'aujourd'hui, on voit apparaître des galeries, des artistes qu'on n'aurait pas vus il y a quelques années, et qui montrent plutôt un retour à la peinture figurative, expressionniste, avec un grand nombre d'artistes non occidentaux, et des galeries d'ailleurs aussi non occidentales, alors même que pendant très longtemps, c'est vrai que Art Basel Basel, on va dire, était un sanctuaire d'un monde plutôt très anglo-saxon, avec des règles esthétiques très précises. Et c'est très intéressant justement de voir l'évolution d'Art Basel dans ce sens-là. D'une certaine manière, ils l'ont appris et ils s'en sont rendus compte, puisqu'en ouvrant à Miami, par exemple, en 2000, puis plus tard à Hong Kong, c'est parce qu'ils s'étaient bien rendus compte que l'art s'ouvrait à un autre monde. Mais on va dire que Art Basel est le résumé justement de cette situation. Donc ça, c'est aujourd'hui très important, surtout deux ans après le Covid, la situation était celle-là. Voilà, et on s'aperçoit que le monde est resté quand même très global, avec des propositions qui ne sont pas simplement du monde anglo-saxon au sens le plus strict du terme.
Alors Miami, c'est pour l'art latino-américain, finalement, c'est un peu ça, faire monter cet art qui vient de l'hémisphère sud du continent américain. Vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord. Et puis peut-être Hong Kong pour précisément faire émerger ou en tout cas donner une vitrine à l'art asiatique. Ça, c'est l'objet même de ces, de cette conception.
Alors c'était la, enfin je dirais bien sûr que c'était la conception. Je pense que le groupe MCH s'est rendu compte à la fin des années 90 que Bazel n'était pas suffisant, déjà plutôt pour faire venir les collectionneurs du monde entier. Voilà. Et il était vrai qu'en ouvrant à Miami, c'était une manière d'attirer déjà tout le marché sud-américain avec des pays comme le Brésil, le Mexique, l'Argentine, Venezuela à l'époque, qui était encore un pays, enfin en tout cas très actif. Donc c'était plutôt cette tendance-là. Il est évident que ça mettait en avant des galeries qui montraient des artistes sud-américains. Et puis petit à petit, cette foire est devenue finalement peut-être aujourd'hui la plus internationale en termes de clientèle, puisque tous les Américains vont à Art Miami, alors qu'ils ne vont plus forcément à Art Basel, plutôt une élite de l'Est des États-Unis. Puis on se s'est rendu compte que les Européens venaient, et puis aussi des grandes diasporas, même des Russes. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une grande partie des Russes fortunés qui habitent aussi à Miami. Et puis aujourd'hui, la Floride, on en entend parler dans la presse, devient vraiment un État extrêmement accueillant, non seulement pour les Américains, mais aussi pour le reste du monde. Donc aujourd'hui, ce n'est pas simplement cette veine qui est à mettre en avant Art Miami. C'est devenu une foire globale.
Alors, je vais passer la parole à Alain Commun, mais précisément, vous parlez des Russes. Très présents, les collectionneurs russes à Art Basel ?
Non. Ils n'ont jamais été très, très présents. Mais par contre, ces dernières années, nous avions un certain nombre de collectionneurs russes, qui ne sont pas tous des oligarques. Ce sont aussi, on va dire, une classe sociale supérieurs, mais qui habitaient à Moscou, qui commençaient à acheter des artistes occidentaux, qui étaient aussi trustees de musées comme le musée Pushkin ou le Garage, et qui commençaient à constituer des collections aussi pour le musée. Donc je trouve que c'est un petit peu effectivement dommage de simplement dire qu'il n'y avait que des oligarques qui pouvaient acheter de l'art. Ce n'était pas du tout ça. Il commençait à y avoir une catégorie vraiment intéressante de collectionneurs en Russie.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors Alain Commun, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose à ce que vient de dire Nathalie Aoubadia. Après ça, j'aimerais que, ne serait-ce que pour nos auditeurs, qu'on essaie de comprendre la distinction qu'il faut faire entre biennale et foire, Alain Commun.
Alors tout d'abord, pour compléter un petit peu ce que vient de dire Nathalie Aoubadia, je crois également qu'il y a un point assez intéressant qui permet d'illustrer justement la réactivité du groupe qui dirige Art Basel, donc MCH Group, qui avait conçu véritablement Art Basel Miami comme une foire qui allait ouvrir le marché aux collectionneurs sud-américains, qui pouvaient donc exprimer un certain goût plus proche de l'hémisphère sud, en tout cas pour les Amériques. Et puis, peu à peu, ce que l'on observe, c'est quand même que cette foire est devenue très états-unienne et que dans ce qui est montré, eh bien, de plus en plus, on s'est déplacé vers un goût très typique des États-Unis, et des États-Unis, pas forcément de la côte Est et de la côte Ouest, qui sont ce que connaissent le mieux les Européens, mais également un goût très États-Unis de l'intérieur. Donc c'est une foire qui finalement, elle, met très souvent en avant des artistes pour aller assez vite, assez pop, de la sculpture un peu pop, de la peinture un peu pop. Et ce n'est pas véritablement ce qui avait été conçu initialement, mais c'est quelque chose qui a été peu à peu mis en place et qui était assez frappant dans les dernières éditions d'Art Basel Miami Beach. Alors pour la distinction maintenant entre les foires et les biennales, c'est vrai que ce qui est assez troublant, c'est que beaucoup de gens les confondent, alors que ce sont deux manifestations de type d'événements très différents, du moins de façon théorique, puisque les biennales sont très anciennes pour leur origine. La première d'entre elles dans le monde, donc la Biennale de Venise, remonte à 1895. Et puis les autres biennales les plus récentes, pour les plus connues, par exemple, la Biennale de Sao Paulo a été créée en 1951. La Documenta de Kassel a été créée en 1955. Alors que les foires, elles, sont plus récentes, datent de la fin des années 60 et du tout début des années 70. Et les biennales sont des grandes manifestations de type exposition, qui sont au moins en affichage non marchande, pour lesquelles des artistes sont sélectionnés par un commissaire. Et les foires, elles, sont des manifestations qui sont évidemment des manifestations marchandes, qui sont donc des manifestations dans lesquelles le comité de sélection va sélectionner donc des galeries qui elles-mêmes viennent avec une proposition des artistes. Les biennales ont lieu pour la plupart d'entre elles tous les deux ans. Les foires sont annuelles et les biennales durent pendant plusieurs mois, surtout pour les plus importantes d'entre elles, alors que les foires ne durent que 4 à 5 jours. Donc vous voyez, ce sont deux choses qui sont en fait très différentes, mais qu'en effet, le grand public a parfois tendance un petit peu à mélanger, alors qu'en réalité, les deux événements sont très distincts.
Nathalie Obalia. Alors,
bien sûr, Alain Quemin, ils sont très distincts et l'un regarde l'autre. C'est ça qui est assez étonnant. Notamment, je pense à MCH, Art Basel, toujours, qui a créé cette section qu'on appelle Art Unlimited, il y a à peu près maintenant une vingtaine d'années, je n'ai pas la date exacte. Mmh. C'est une grande halle, énorme, qui a pratiquement la taille de la foire, et dans laquelle les galeries postulent pour pouvoir montrer, exposer des œuvres, des artistes, mais des œuvres monumentales. Voilà. Et donc, effectivement, quand on va à Art Unlimited, on a l'impression d'être comme dans une biennale, comme si on était à l'arsenal de la Biennale de Venise. On déambule justement à l'intérieur de cellules qui montrent des grandes vidéos, des grandes installations. Et il est évident que pour les galeries, pour avoir participé à un certain nombre d'Art Unlimited, nous le faisons vraiment pour l'image de la galerie, pour promouvoir l'artiste et pour montrer que nous ne sommes pas simplement dans une foire commerciale. C'est aussi ce qu'a voulu faire MCH, évidemment, en créant cette section. C'est pour atteindre quelque chose qui n'est pas du niveau commercial. Alors que, bien entendu, que nous vendons ces installations, mais certaines ne le sont pas. Et parfois, j'ai postulé pour des propositions dont je savais que ce serait forcément compliqué de les vendre, mais c'était important pour l'image de la galerie, pour l'image de l'artiste, de pouvoir se retrouver Art Unlimited. D'un autre côté, on sait aujourd'hui que les biennales, notamment la Biennale de Venise, qui a eu d'ailleurs un bureau d'acquisition pendant très longtemps, jusqu'à la fin des années 60, c'est-à-dire qu'il y avait un bureau qui, pendant la biennale, permettait aux collectionneurs, aux visiteurs, d'acheter des œuvres qu'ils voyaient dans les pavillons. Donc, ce n'est pas complètement hors du marché. Ce bureau n'existe plus. D'un autre côté, les productions d'œuvres coûtent très cher pour les pavillons nationaux, mais aussi pour les invitations dans l'arsenal. Et il est évident que les galeries sont mises à contribution, nous demandent d'aider à la production pour que nos artistes puissent exposer dans les pavillons nationaux, mais aussi dans la grande exposition dirigée par le commissaire général. Et bien entendu que ces œuvres sont des œuvres qui se vendent. Elles peuvent se vendre d'ailleurs pendant la biennale, au moment du vernissage, elles peuvent se vendre aussi. Donc on voit que la porosité, vous voyez, se fait, même si, comme l'a bien expliqué Alain Quemin, ce sont deux types d'expositions totalement différentes, ça c'est sûr.
Mais des connexions entre les uns et les autres, c'est-à-dire entre les galeries et entre les institutions. Alors, j'ai cette question pour vous, Nathalie Obadia, qui encore une fois était à Art Basel. Qu'est-ce que vous y avez vu en termes d'art? Est-ce qu'on retrouve des thématiques liées à l'actualité, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix des matières premières, des inquiétudes sur l'avenir? Est-ce que cela s'est ressenti dans...
Non, vous savez, la foire de Bâle, particulièrement, c'est une espèce d'hétérotopie. On est comme ça, vraiment entre nous, vraiment d'une manière enfermée. Et je dirais que même 3 mois, 4 mois après la guerre en Ukraine, on n'en a pas vraiment vu les conséquences ou les effets. D'abord parce qu'on postule 6 mois à l'avance. Les œuvres sont produites, envoyées aussi très longtemps à l'avance. Je ne peux pas dire qu'il y ait eu des conséquences par rapport à cela. Par contre, qu'aujourd'hui, les foires se disent qu'il faut faire attention à la montée du prix des matières premières, mais aussi prendre en compte des problématiques d'écologie, ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus être mis en avant. Par exemple, le fait que les transports soient faits de manière, on dirait, plus rationnelle, que chaque galerie comprenne qu'il ne faille pas faire transporter des œuvres d'Asie aux États-Unis sans arrêt. Donc tout le monde est un peu responsable, comme les foires, par exemple, de plus en plus vont réutiliser les matériaux, c'est-à-dire les cloisons, les tissus. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Maintenant, en termes de commerce, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine ou les autres problèmes aient été une conséquence.
Mais les questions, effectivement, d'écologie, d'environnement, sont des questions sur lesquelles on s'est tourné et le regard s'est porté précisément sur tout ce monde artistique avec la multiplication des foires, la multiplication des biennales. En tout cas, c'est un sujet d'actualité. Alors, on parlera dans la deuxième partie de l'émission. Je l'ai évoqué dans la première partie, c'est le passage de la FIAC à Paris Plus sous le contrôle et la couverture de Art Basel. Ce sera le grand événement de la rentrée à Paris. Je vous demanderai à chacun, Alain Quemin et Nathalie Obadia, ce que vous en pensez. On vous retrouve après le journal, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur l'art contemporain, nous retrouvons nos invités avec moi en studio. Nathalie Obadia, galeriste spécialisée dans l'art contemporain avec 3 espaces à Paris et 1 à Bruxelles. Nathalie Obadia qui est également enseignante à Sciences Po et auteure de Géopolitique de l'art contemporain aux éditions Le Cavalier Bleu. Et par téléphone, Alain Comin, professeur de sociologie de l'art à l'université Paris 8, contributeur de la presse artistique. Son dernier ouvrage, Le Monde des Galeries, Art contemporain, structure du marché et internationalisation, aux éditions du CNRS. Je le disais à la fin de la première partie de l'émission, adieu la FIAC et bienvenue, ou je ne sais pas, en tout cas, voilà, le Paris s'ouvre à Paris Plus. Alain Comin, je vous dirige la question, est-ce que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle? Et une question aussi, c'est que finalement, personne n'a vraiment bougé le petit doigt pour peut-être s'opposer à ce changement, à commencer par le ministère français de la Culture. Alain Comin.
Alors je pense que c'est une très bonne décision et en plus c'est une décision très intelligente qui a été prise puisque le Grand Palais en fait est géré par la Réunion des musées nationaux qui depuis donc de très nombreuses années réservait un créneau donc au mois d'octobre pour une foire d'art contemporain qui avait toujours été la FIAC. Et la question ne se posait pas véritablement, mais également il faut bien voir que la Réunion des musées nationaux réservait également un autre créneau pour une foire spécialisée en photographie qui est donc Paris Photo, et lorsqu'un appel d'offres a été donc ouvert un peu contre toute attente, puisque les gens avaient l'impression en quelque sorte que le créneau du mois d'octobre finissait par appartenir à la FIAC, ce qui n'était absolument pas le cas, eh bien la Réunion des musées nationaux a pris une décision que j'ai trouvée à la fois un peu inattendue, mais également extrêmement intelligente. Elle a reconduit Paris Photo dans son créneau, et elle a changé donc de prestataire pour la foire d'art contemporain, en passant donc du groupe qui possède par ailleurs Paris Photo et qui possédait également la FIAC à MCH Group, le groupe qui possède Art Basel et qui maintenant va organiser cette nouvelle foire, appelée de façon un petit peu bizarre Paris Plus, mais qui normalement devrait beaucoup dynamiser la place de Paris, qui est une place qui monte de plus en plus et qui pour cela était devenue effectivement très désirable pour ce groupe suisse à la tête des plus grandes foires du monde, mais qui va bien entendu être bénéficiaire d'un carnet de collectionneurs qui sont bien entendu attirés par la place de Paris, mais qui seront en plus, d'autant plus susceptibles de venir, que le groupe MCH Group est extrêmement prestigieux, extrêmement professionnel, et donc on peut penser que la manifestation va encore monter en gamme.
Alors Nathalie Obadia, vous partagez ce que vient de dire Alain Comin, bonne décision que ce changement ?
Bonne décision à la fin, un peu triste quand même de se dire qu'une foire qui avait été créée d'ailleurs en 73 par des marchands, puis reprise après par plusieurs groupes privés, n'est pas réussi, on va dire, à se professionnaliser et à monter en gamme face justement à la montée en gamme de Paris. C'est ça qui est très intéressant, c'est que MCH, Art Basel, est venu à Paris parce que Paris est redevenu le centre en Europe continentale. En plus, avec le Brexit qui a été acté, mais enfin, bon, c'est une longue histoire. Aujourd'hui, Londres a des moments très difficiles pour le marché de l'art. Pour les galeries, c'est très compliqué. D'ailleurs, on voit un certain nombre de galeries qui viennent s'installer en France. C'est compliqué parce qu'en Angleterre, il y a très peu de collectionneurs anglais et que ce sont surtout les collectionneurs étrangers qui venaient. Oui, les Russes, mais les Asiatiques, le Moyen-Orient, avec le Covid, ils voyagent beaucoup moins. Bon, donc voilà, tout un ensemble, en tout cas, d'éléments qui font que Londres a vraiment perdu de sa superbe. De l'autre côté, l'Allemagne aussi vieillit, s'affaiblit dans le domaine de l'art contemporain. Il n'y a pas de très grande foire internationale comme il y en a eu. La foire de Cologne est quand même très, très, très allemande. Les galeries de Berlin viennent aussi plutôt ouvrir à Paris. Donc, MCH est venu finalement dans un endroit qui était à prendre. Nous sommes très heureux, bien entendu. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que Art Basel a bien compris que ne restant en Europe qu'à Art Basel, le risque était aussi d'un petit peu de se marginaliser. Parce que Basel, en 1970, était au centre d'une certaine Europe qui est un peu différente aujourd'hui, puisque Basel, c'était un peu l'Allemagne qui elle-même s'est affaiblie. Il est évident qu'ils se sont dit, on ne peut pas rester sur notre rente de situation. Donc, à chaque fois, finalement, on fait Et on réagit alors que la FIAC s'est laissée un petit peu aller, on va dire. Et donc, Basel a bien compris que Basel ne suffisait pas. Il n'y a pas d'aéroport international aujourd'hui. Enfin, il n'y a toujours pas, d'ailleurs, à Basel. Et c'est vrai que Marc Spiegler, le directeur des foires de Bâle, l'a bien expliqué. Aujourd'hui, la nouvelle génération de collectionneurs qui ont entre 30 et 50 ans, qui arrivent du monde entier, cherchent une expérience globale. Ils ne viennent pas simplement pour voir 250 galeries dans un espace. Ils viennent aussi pour être dans de très beaux hôtels, avoir des restaurants très sympathiques, pouvoir voir des musées, des fondations, les magasins de luxe, ça aussi c'est important. Donc effectivement, on va retrouver à Paris ce qui s'est passé à Miami, que nous avons vu se construire, c'est-à-dire cette alliance entre l'art, le monde du luxe, voilà, des expériences qu'il faut qu'à un moment donné, on va dire que de 8h du matin jusqu'à minuit, il y a un rayonnement, il y a un ruissellement de la foire qui se fait sur toute la ville. Vous voyez, comme à Miami, on voit qu'après la foire, tous les vernissages se font d'ailleurs souvent sous l'égide d'une marque pour des artistes. Donc voilà, il y a une alliance qui se fait. Et c'est cette alliance qu'on va retrouver à Paris. Donc c'est sûr que MCH a eu vraiment raison de conquérir cette place et nous sommes, nous, marchands, artistes, collectionneurs, très heureux effectivement de cette arrivée.
Mais dommage donc pour la FIAC de ne pas s'être peut-être renouvelée plus en amont. En tout cas intéressant parce que effectivement, dans la cadre de la préparation de cette émission, je n'ai pas du tout perçu ce que vous évoquez là, qui est que Paris est redevenu le centre en Europe.
Nous sommes en Europe.
De l'art contemporain.
Alors, c'est le marché européen aussi qui fait ça. Il ne faut pas oublier que Art Basel n'est pas en Europe, que Londres n'est plus en Europe. Donc, c'est évident qu'il faut avoir aussi une place quand même importante au sein du marché européen. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'en dehors de la foire MCH, il y a aussi un certain nombre de galeries qui ont des antennes en Suisse et en Angleterre qui viennent en ce moment à Paris s'installer, justement aussi pour venir s'installer dans un pays du marché européen.
Alors, moi, je m'étonne de l'absence finalement dans cette effervescence artistique de Berlin, parce que Berlin avait nourri beaucoup d'espoir, peut-être Alain Comin, avec voilà, la réunification de l'Allemagne, enfin il y a beaucoup de choses, et puis peut-être plus central sur le continent européen au sens large du terme et pas seulement Union européenne.
Alors l'Allemagne est un pays très particulier, très intéressant. C'est un pays qui concentre énormément de très grands artistes, notamment toute une génération aujourd'hui âgée, mais il existe également des suiveurs, de très grands peintres expressionnistes, comme l'a dit tout à l'heure Nathalie Obadia. Et un point également que j'ai trouvé très intéressant dans ce que vient de dire donc notre galeriste, c'est que finalement la foire Art Basel, qui est une foire suisse, est située en termes géopolitiques dans un univers quand même extrêmement particulier. Elle a lieu dans une ville frontalière entre la France et la Suisse, située en Suisse, mais avec une partie même de sa gare, symboliquement, je pense que c'est très important, qui est située sur le territoire français, mais elle est également très proche de l'Allemagne, et la foire Art Basel a toujours joué un rôle en quelque sorte de foire allemande déterritorialisée en Suisse, et étant plus importante effectivement que la foire de Cologne, qui est traditionnellement la foire allemande numéro un, mais qui est très loin derrière. Mais en tout cas, Art Basel a toujours été un point d'ancrage extrêmement important pour les galeries allemandes. La place de Berlin a un handicap, c'est que c'est une ville qui est formidable en termes de créativité, qui est très forte pour les artistes. Beaucoup d'entre eux possèdent des ateliers, notamment parce qu'il y a un écosystème qui est extrêmement porteur. Mais pour autant, les galeries très importantes n'y sont pas très nombreuses. Alors évidemment, il y a Sprüttmeyers dans les générations de galeries plus anciennes. La galerie Konrad Fischer, qui est une galerie également qui a joué un rôle très important, qui aujourd'hui continue. Mais quand même, il manque un terreau de collectionneurs très important dans la ville même de Berlin. Les collectionneurs sont davantage restés aujourd'hui encore dans la région de la Ruhr. Et donc, l'écosystème n'est pas extrêmement porteur. Et comme le disait tout à l'heure Nathalie Obadia, Berlin n'est pas Paris en termes d'offres institutionnelles. L'offre institutionnelle est quand même très riche. Qu'il s'agisse d'ailleurs aujourd'hui des institutions publiques traditionnelles ou alors qu'il s'agisse de plus en plus des institutions privées qui ouvrent. Alors on peut penser bien entendu à la Fondation Louis Vuitton, on peut penser à la collection Pinault, on peut penser à la Fondation Cartier qui va encore s'étendre. Et puis il y a tous ces grands musées comme le Centre Georges Pompidou, le Musée d'Art Moderne donc de Paris. L'offre est quand même extrêmement riche à Paris en termes institutionnels et c'est quelque chose que Berlin n'a pas.
Alors précisément c'est un élément que signale Alain Comin dans son ouvrage Le Monde des Galeries, Nathalie Obadia, c'est la proximité finalement notamment de la concentration des galeries dans un espace d'une capitale ou pas capitale, politique ou économique. Je pense à New York, avec toutes ces galeries qui se sont rassemblées dans le quartier de Chelsea, qui correspond à une proximité avec l'espace DIA. Et pour Paris, c'est la même chose. C'est-à-dire que Beaubourg, et vous en savez quelque chose, parce que vous êtes installé pas très loin de Beaubourg, en tout cas, a généré aussi cette floraison de galeries dans le quartier du Marais. C'est un élément qui est tout à fait intéressant pour comprendre, d'une part, la localisation géographique des galeries, et peut-être aussi, et ça je vous pose la question, cette concentration des galeries, finalement on peut se demander si les unes les autres ne se neutralisent pas, et en quoi est-ce bien d'avoir...
Non, je dirais que c'est un peu le contraire. Le fait d'être une dizaine de galeries, au moins dans un quartier, fait que les visiteurs, les collectionneurs, viennent justement voir une dizaine de galeries, être tout seul... Il faut déjà quand même être très, très, très prétentieux pour penser que tout le monde va venir ne voir qu'une seule galerie. Par contre, à Paris, c'est là où c'est très intéressant, c'est que bon, je dirige ma galerie depuis une trentaine d'années, donc il était évident qu'à l'époque, il fallait ouvrir près de Pompidou, puisque c'était le centre névralgique des galeries d'art contemporain, des galeries d'avant-garde, on va dire. Donc c'était tout à fait naturel. Et j'ai la galerie principale, la galerie la plus ancienne, qui est effectivement à 2 minutes du centre Pompidou. Donc je suis au milieu d'un circuit. En plus, maintenant, avec l'ouverture de la collection Pinault, c'est à 10 minutes du centre Pompidou. Donc il y a un vrai circuit qui se fait entre Pinault, centre Pompidou et on va dire la quinzaine de galeries d'avant-garde qui sont autour du centre Pompidou. C'est plus difficile du côté du Haut-Marais, là où je ne serais pas allée m'installer, pour des raisons tout à fait pratiques de circulation. Et c'est un peu la même chose à New York. Il y a des galeries qui étaient à Chelsea qui finalement ont ouvert un nouveau lieu uptown, en haut de la ville, parce que c'était très difficile de circuler. Eh bien, c'est ce qui s'est passé à Paris. De par le dynamisme de la scène française, il y a beaucoup plus de collectionneurs français maintenant, de beaucoup plus d'étrangers qui viennent à Paris, pour les raisons dont nous avons parlé avant, il était évident qu'il fallait avoir un second espace dans un quartier, on va dire, plus bourgeois. Et donc, je me suis installée Faubourg Saint-Honoré. Et aujourd'hui, nous sommes une dizaine de galeries françaises, mais aussi étrangères, à s'être installées là. À côté, effectivement, aussi de Crisis, de Sotheby's qui s'agrandit. Et quand on s'aperçoit qu'on est au milieu aussi des magasins de luxe. Et puis aussi, c'est là que la plupart des grands collectionneurs français ont leur bureau, ou en tout cas viennent au moins une fois par semaine dans ce quartier. Donc, c'était très important de se retrouver dans ce quartier, comme à New York, j'ai Uptown, ou comme Mayfair à Londres. Voilà. Donc ça, c'est aussi là qu'on voit que Paris évolue beaucoup.
Tout cela n'est pas donc le fruit du hasard, Alain Commun.
Non, pas du tout. Et justement, c'est ça que je trouve, en termes sociologiques, assez troublant, intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on pourrait penser que la territorialité est relativement secondaire. Toutes les galeries possèdent des sites Internet qui sont des sites très bien faits. Alors, les ventes sur le premier marché ne sont pas extrêmement importantes, mais en termes d'image, les sites sont extrêmement essentiels. Et puis également, les foires tendent à déterritorialiser en partie l'exercice, donc des galeries, en particulier l'activité de vente. Et pour autant, le territoire reste vraiment extrêmement à marqueur. On ne peut pas ouvrir une galerie n'importe où, n'importe comment. Et comme l'a très bien expliqué à l'instant Nathalie Obadia, par exemple à Paris, c'est vraiment le quartier du Marais qui reste le cœur traditionnel du marché. On a un petit peu également quelques galeries qui sont installées rive gauche aujourd'hui. Et puis, on a effectivement cet autre positionnement qui va être donc le positionnement à l'intérieur du 8e arrondissement. Et puis, il y a effectivement quelques giga-galeries, des galeries extrêmement importantes comme la galerie Tadeusz Ropak ou la galerie Gagosian, qui ont pu franchir symboliquement l'espace du périphérique. Un petit pôle de quelques galeries qui ont essayé de se regrouper à Romainville, à Communima, mais on voit que l'espace des possibles dans l'urbain est finalement extrêmement contraint, extrêmement limité.
Alors, il y a un élément et un mot que j'avais souligné, remarqué, parce que vous l'utilisiez beaucoup dans votre ouvrage Géopolitique de l'art contemporain, Nathalie Obadia, c'est le terme de mimétisme. Finalement, justement, Alain Commun parlait de ces espaces gigantesques qui aujourd'hui ont dépassé le périphérique en France, mais tout ça se retrouve aussi à New York sur un autre registre. Mais finalement, voilà, il suffit qu'il y en ait un qui fasse un truc pour qu'il soit suivi par d'autres. Et bon sang, mais l'idée est géniale, j'aurais dû... Voilà. Le mimétisme est quelque chose dans l'art qui est très prégnant.
Alors, le Mimichis, oui, bien sûr qu'il est très bien, mais il touche tous les acteurs. C'est-à-dire que le collectionneur aime bien acheter ce qu'un autre de la même stature, on va dire, souhaitera, enfin, a acquis. Je pense notamment à Jeff Koons, où on se souvient bien qu'il savait très, très bien jouer de ce mimétisme des 10 grands collectionneurs les plus influents au monde, en Grèce, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Norvège. Donc voilà, il savait jouer de ce mimétisme et en disant, voilà, tel collectionneur norvégien très connu, Alstrup, par exemple, a acheté une version d'un lapin rose. Et bien après, voilà, il était sûr de pouvoir vendre les autres aux 9 autres, voilà, en jouant de ce mimétisme. Ce mimétisme, comme l'a expliqué bien Alain Quemin, il joue aussi avec les galeries. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une galerie va vouloir ouvrir 500 mètres carrés, l'autre va vouloir ouvrir 600 mètres carrés. Il y en a un qui va ouvrir dans le 8e. D'ailleurs, on le voit là avec les galeries les plus puissantes internationales qui, aujourd'hui, essayent d'ouvrir dans le 8e. Il y en a une qui vient de signer. L'autre, on se dit qu'elle va signer un espace dans pas très longtemps. Ça se retrouve aussi dans la communication. Alors aujourd'hui, ça s'est fait il y a 3-4 ans. C'était telle galerie à 50, 60 salariés. Hop, celui-ci, il en a 70. Donc, vous voyez, ça se joue à tous les niveaux. Mais ça se joue aussi avec les musées. Les musées aiment avoir les œuvres qu'un autre musée ne pourra pas avoir. Et d'ailleurs, là, je l'ai vu, parce que je reviens de la TFAF. J'ai participé pour la première fois à cette magnifique foire à Maastricht. Et effectivement, un directeur du musée m'a expliqué qu'un autre Américain avait acheté une œuvre parce qu'il avait su qu'il voulait la voir. Enfin, j'ai bien vu qu'il y avait une compétition entre les grands directeurs de musées à un niveau international pour pouvoir aussi acquérir une œuvre qui soit emblématique et qui donne une image, en tout cas, plus importante du musée à l'international.
Alors, mimétisme ou résonance, je pense à une chose, c'est l'artiste américaine Shirley Jaffe que vous exposez actuellement, Nathalie Obadia, dans l'une de vos galeries, et qui a une rétrospective à Beaubourg. Là aussi, tout ça n'est pas le fruit du hasard.
Non, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire que Shirley Jaffe est décédée en 2016. Nous avons exposé ensemble pendant pratiquement une vingtaine d'années. Je suis aujourd'hui en charge de la succession, c'est-à-dire que donc la galerie se charge de promouvoir son œuvre avec les tableaux qui appartiennent dans la succession. Et donc, notre rôle est de trouver des expositions dans les musées et de vendre les tableaux qui restent aux acteurs les plus influents dans les musées et chez les collectionneurs privés. Donc, le Centre Pompidou a organisé une très belle exposition à partir d'emprunts et de tableaux qui viennent d'ailleurs en dation. Ça aussi, c'est important de le dire. Et la galerie a organisé une exposition à côté qui est un hommage à Shirley Jaffe, c'est-à-dire que nous avons mis quelques œuvres de Shirley Jaffe aux côtés d'œuvres d'artistes qu'elle a beaucoup appréciées et qui étaient eux-mêmes très influencés ou qui appréciaient beaucoup le travail de Shirley Jaffe. Je pense notamment à Bernard Pifariti, Carole Benzaken ou Bouraglio. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait.
Alors Alain Quemin, quelques mots pour terminer cette première émission, nous poursuivrons demain sur l'art contemporain, mais peut-être quelques éléments de conclusion, ne serait-ce que par rapport à ce que vient de dire Nathalie Obadia.
Alors, c'est effectivement cette idée de la compétition qui s'est beaucoup intensifiée, qui me semble quelque chose de très important aujourd'hui pour qualifier ce qu'est devenu le marché de l'art contemporain dans une perspective internationale. Quand Nathalie Obadia, même elle le disait, a commencé son activité il y a une trentaine d'années, le métier de galeriste n'était pas un métier à très forte intensité capitalistique. Et ce qui me semble très important, c'est depuis maintenant une dizaine, une quinzaine d'années, l'accélération du rythme du marché de l'art et puis également justement cette intensification des investissements et puis donc le fait que les galeries deviennent toujours plus importantes. Les galeries ouvrent toujours davantage d'antennes, d'annexes. Donc il y a un changement d'échelle qui aujourd'hui constitue véritablement un très fort de ce secteur d'activité.
Merci Alain Quemin. Je rappelle que vous étiez avec nous par téléphone et que vous êtes professeur de sociologie de l'art à l'Université Paris 8, contributeur de la presse artistique et votre dernier ouvrage, Le Monde des Galeries, Art Contemporain, Structure du Marché et Internationalisation, paru aux éditions du CNRS. C'est Nathalie Obadia qui est avec moi en studio, galeriste spécialisée dans l'art contemporain avec 3 espaces à Paris et 1 à Bruxelles. Nathalie Obadia qui expose des artistes émergents et reconnus de la scène artistique contemporaine internationale et participe à plus d'une dizaine de foires internationales. Et je rappelle aussi que vous êtes enseignante à Sciences Po et auteur de Géopolitique de l'art contemporain aux éditions Le Cavalier Bleu. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Nous vous retrouverons demain, Alain Quemin et Nathalie Obadia, pour un second volet de cette série consacrée à l'art contemporain.